VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, midi à Kinshasa. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, redoute une généralisation des violences en République démocratique du Congo à 9 mois d'une présidentielle incertaine dans ce pays miné par la crise politique. Ce communiqué a été publié 2 jours avant un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. La MONUSCO, présente depuis 1999 en RDC, a déployé près de 19 000 soldats, policiers et observateurs militaires dans l'Est et à Kinshasa essentiellement. En Côte d'Ivoire, 151 migrants clandestins ont été récemment rapatriés volontairement de Libye, où ils s'étaient rendus dans l'espoir de gagner l'Europe. De plus en plus de jeunes Ivoiriens, à l'instar de nombreux autres Africains, se lancent dans ce genre d'odyssée, dépensant souvent des millions de francs CFA tout en étant conscients qu'il pourrait bien s'agir de leur dernier voyage. En d'autres termes, un destin incertain, mais un espoir pour toute une famille, nous dit à Abidjan notre correspondante Narita Namasté.
L'objectif d'emprunter la voie de Libye, c'était pour avoir une vie meilleure.
Tous aspirent à cela, une vie meilleure. La Libye est devenue l'une des principales routes pour atteindre l'Europe à la Méditerranée. Diawara Yves Mokhtar, âgé de 20 ans, jeune footballeur, rêve d'évoluer dans une équipe en Angleterre.
L'objectif d'un Ivoirien qui joue au foot, la terminaison, c'est au moins dans les pays européens. L'argent qui est pris en Côte d'Ivoire jouant en Libye, ça vaut 1 300 000.
Il a combattu auprès de la rébellion armée ivoirienne, mais il n'a pas été enrôlé pour intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire. Pour lui, il était plus que nécessaire de prendre la route de l'aventure.
Depuis la guerre de 2011, j'étais avec des jeunes frères qu'on a combattu ensemble depuis de Vavoie. Ils ont eu les matricules. Bon, moi, mon matricule n'est pas sorti. Dès que mon argent, je suis parti en Algérie. De l'Algérie, je suis parti maintenant de la Libye. Nous qui avons combattu, nous, on n'a rien eu. Ceux même qui n'ont rien fait, c'est eux qui ont les matricules, ils se promènent avec les galons. Au lieu que je vais rester là, toujours les regarder. Je préfère aller me chercher. C'est pour cela qu'ils sont allés me chercher, wallah.
La misère des immigrants est souvent loin de se terminer. Comme Soumaoro Fatoumata, mère de 2 enfants, qui a passé 3 mois dans une prison à Tripoli avec son bébé de 6 mois, souvent privé de nourriture et d'eau, Fatmata est bien heureuse de retrouver son pays natal. Mais sa joie n'est pas totale.
Ils ont cassé toute leur maison là-bas. Moi, j'ai fait 3 mois avec mon enfant. J'ai fait 3 mois là-bas, dans prison. J'ai quitté dans prison là pour venir ici. C'est très, très content, mais moi, je n'ai pas content bien. Parce que je ne vois pas mon petit frère, je ne vois pas mon mari.
Revenu de la Libye, chacun avec son histoire, la joie se lit sur le visage de la sœur aînée du jeune footballeur Diawara.
Ça faisait 2 mois, quelques jours que je n'avais plus de ses nouvelles. Je ne savais plus comment il faut le retrouver. Vraiment, j'avais perdu espoir. Et quand il a appelé qu'il a l'aéroport d'Abidjan, j'ai rendu gloire à Dieu.
Le gouvernement ivoirien n'entend pas les abandonner.
La Côte d'Ivoire suit de près la vie de ses ressortissants où qu'ils se trouvent. Chaque fois que nous sommes saisis par des Ivoiriens qui sont dans une situation de détresse, le président de la République nous donne les moyens nécessaires pour faire rapatrier compatriotes.
En fin 2016, le gouvernement ivoirien annonçait que la Côte d'Ivoire occupait la 4e place dans le classement des pays pourvoyeurs des migrants clandestins. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, 6 travailleurs humanitaires ont été tués dans une embuscade. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des humanitaires en plus de 3 ans d'une guerre civile brutale qui a entraîné une famine. Claire Morin-Jibou.
Une source humanitaire a affirmé qu'il s'agissait de 3 Kenyans et de 3 Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Ils se rendaient de Djouba à Pibor. Leur voiture a été arrêtée par des individus non identifiés qui les ont abattus. Selon David Scherer, représentant spécial de l'ONU, l'attaque a eu lieu dans une zone contrôlée par le gouvernement et il a exhorté les autorités à enquêter et à arrêter les tueurs. Djouba empêche les humanitaires d'accéder aux zones tenues par les rebelles. Cette embuscade survient après 2 autres attaques. Le 10 mars à Mayendit, dans le nord, des employés d'une ONG ont été enlevés puis relâchés 4 jours plus tard. Et un agent de la santé a été tué le 14 mars à Yirol, où sévit le choléra. Le 20 février, le gouvernement de Djouba a déclaré que la famine sévit dans le pays et affecte plus de 100 000 personnes. D'ailleurs, Khartoum a annoncé hier l'ouverture de corridors humanitaires de la ville d'El Obeid, dans le centre du Soudan, à Bentiu, dans l'état de l'unité, pour acheminer quelques 10 000 tonnes de sorgho.
Au Mali, 6 morts et autant de blessés. C'est le bilan de 3 attaques menées par des hommes armés non identifiés à Gao et Welesebougou, une localité située à 80 km au sud de Bamako. Kassim Traoré.
La première attaque a été perpétrée contre un checkpoint de l'armée malienne le samedi 25 mars à Almoustras, une localité située à 150 km de Gao. Le bilan est de 3 soldats maliens tués et 4 blessés. Les assaillants non encore identifiés ont emporté un véhicule équipé d'une 14-50 mm, des armes AK-47 et des munitions. La deuxième attaque avait pour cible des cars de transport des sociétés Sonef et Nour qui ont été attaqués entre Gossi et Dori, toujours dans la région de Gao. C'était vers 7h du matin et les passagers ont été dépouillés de leurs biens. Le seul passager blessé est décédé à l'hôpital de Gao suite à ses blessures. Le même samedi, aux environs de 22h, le poste de douane de Welesebougou, localité située à 80 km de Bamako, a été attaqué par des bandits armés. Le bilan fait état de 2 douaniers tués et un autre blessé. Par ailleurs, la conférence d'entente nationale s'ouvre ce matin. Les groupes armés signataires de l'accord voulaient bouder cette rencontre, mais certains d'entre eux ont accepté d'y participer. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Lundi 27 mars 2017 à Washington, il est 7h06.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le président américain Donald Trump envisage de confier à son gendre Jared Kushner une nouvelle mission à la Maison-Blanche pour rationaliser l'action gouvernementale avec des idées venues du monde des affaires. Selon le quotidien Washington Post, selon le journal américain, il devrait prendre la direction à la Maison-Blanche d'un bureau de l'innovation qui devrait être présenté aujourd'hui, ce lundi. À ce poste, il aurait toute autorité pour remanier l'administration afin de tenir les promesses du nouveau président, tel que réformer la prise en charge des anciens combattants ou combattre la dépendance aux opiacés. Âgé de 36 ans, M. Kushner est un haut conseiller du président américain. À 2 jours du lancement du Brexit, la première ministre britannique, Theresa May, se rend aujourd'hui en Écosse pour rencontrer la chef du gouvernement écossais et tenter de la convaincre que ce n'est pas le bon moment pour réclamer l'indépendance. Londres va activer mercredi l'article 50 du traité de Lisbonne qui va lancer officiellement le processus de sortie de l'Union européenne 9 mois après le référendum du 23 juin 2016. Où les Britanniques ont voté à près de 52% pour quitter l'Union. Des combats opposaient ce lundi le groupe État islamique aux forces arabes et kurdes qui ont pris la veille l'aéroport de Tabqa à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest du fief djihadiste de Raqqa dans le nord de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSTH. L'aéroport de Tabqa se trouve à près de 3 kilomètres au sud de la ville du même nom, située, elle, sur la rive du fleuve Euphrate et dont les combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS, veulent également s'emparer. Les forces irakiennes sont réparties aujourd'hui à l'offensive contre les djihadistes du groupe État islamique dans la vieille ville de Mossoul, située dans la partie occidentale de la deuxième ville d'Irak. Environ 400 000 civils sont pris au piège dans la vieille ville, coincés entre les djihadistes et les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale anti-djihadiste conduite par Washington, qui tente de reprendre le dernier grand bastion urbain de l'État islamique en Irak. Les enquêteurs sud-coréens travaillant sur le retentissant scandale de corruption qui a entraîné la destitution de la présidente Park Geun-hye, ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient demander son arrestation moins d'une semaine après sa longue audition. Madame Park, âgée de 65 ans, avait échappé pendant des mois à la justice grâce à son immunité présidentielle avant d'être finalement destituée le 10 mars. Pendant des semaines, des foules ont manifesté pour demander le départ de la chef de l'État et des poursuites à son encontre. Et des manifestants ont attaqué dimanche soir une résidence de la police dans la région d'Al-Hoceima, dans le nord du Maroc, faisant des dégâts matériels, a rapporté aujourd'hui l'agence de presse officielle en citant des autorités locales. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 55-50 minutes. Ce sera en compagnie de Harry Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.